Rencontre littéraire. Les nouvelles modalités d'accès à l'information, open access et l'évolution des droits d'auteur. Tel était le thème d'une conférence donnée le 1er décembre dernier à l'Institut français de Prague par Nicolas Delavergne de la Fondation Maison des sciences de l'homme de Paris. Ce dernier a évoqué ensuite au micro de Radio Prague ce thème qui, à l'âge du numérique et de la communication électronique, devient de plus en plus important. Vous venez de prononcer une conférence sur les nouvelles modalités d'accès à l'information. Quelles sont donc ces nouvelles modalités? Peut-on résumer cette problématique?
Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, le numérique a révolutionné la diffusion des connaissances scientifiques, des publications scientifiques, depuis une vingtaine d'années maintenant. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'Internet a été créé par des universitaires pour partager des informations scientifiques au départ, et que c'est finalement à partir de ce modèle-là que c'est devenu beaucoup plus large après, mais la vocation originelle de l'Internet était le partage de publications scientifiques. Dans le cadre de l'Internet globalisé qui s'est mis en place et qui a été immédiatement saisi aussi par des entreprises multinationales, des entreprises, etc., il y a aussi dans le domaine scientifique des entreprises qui se sont saisies d'Internet pour diffuser autrement et pour faire du profit. Mais il y a aussi beaucoup de chercheurs qui se sont emparés d'Internet pour diffuser plus largement, de façon beaucoup plus ouverte, leurs publications scientifiques.
Expliquons le terme open access.
Alors le mouvement de l'open access ou de l'accès libre, l'accès ouvert en fait aux publications scientifiques, c'est un mouvement qui est né à peu près en même temps que justement ces gros opérateurs qui ont capté les revues et qui ont mis en place un système dans lequel l'accès aux revues scientifiques est enfermé par des abonnements très chers ou des paiements à l'article très chers, etc. Ces chercheurs ont pensé, d'ailleurs dans une longue tradition de partage non rémunéré de la science. La science est faite pour être partagée, c'est le patrimoine commun de l'université, c'est le progrès général des sciences, et donc il ne faut pas que ce soit confisqué par finalement des acteurs économiques qui peuvent avoir un rôle dans la diffusion, mais quand leur rôle n'est plus celui de la diffusion, mais au contraire de la restriction à l'accès, ces chercheurs ont considéré qu'il fallait mettre en place des infrastructures, des structures, des institutions pour diffuser en accès libre les publications, c'est-à-dire que chacun, sans avoir à payer ou à s'identifier ou à appartenir à une institution qui paye, pouvait accéder au maximum de publications scientifiques.
Dans quelle mesure ces nouveaux phénomènes se reflètent-ils dans le domaine des droits d'auteur ?
Alors la question des droits d'auteur se pose de façon particulière dans le monde scientifique, dans le monde de la recherche scientifique, puisque effectivement on a une tension entre la cession des droits d'auteur par les chercheurs eux-mêmes aux grandes entreprises de diffusion de publications, et de l'autre côté on a des chercheurs qui eux-mêmes pensent que plutôt que de les céder à des grandes entreprises, il y en a qui pensent qu'il faut au contraire les ouvrir, les libérer, donc publier sous forme de licence Creative Commons ou en ouvrant les droits de manière à diffuser au plus grand nombre leurs publications. Les chercheurs perçoivent très rarement des droits d'auteur, à part quand ils publient des livres dans des maisons d'édition de façon traditionnelle, mais sinon sur les publications scientifiques, ils n'ont jamais perçu de droits d'auteur.
Notre conception des droits d'auteur connaît donc une évolution. Dans quel sens évolue-t-elle ?
Alors, le droit d'auteur, en fait, il est saisi par des acteurs pour... le droit d'auteur et ses exceptions, parce que justement, il faut bien voir que c'est pas un droit... C'est un droit avec des règles de droit, mais il y a aussi des exceptions qui sont des règles de droit qui permettent justement, depuis très longtemps d'ailleurs, par exemple, de citer un article ou une œuvre non scientifique dans le cadre d'un article scientifique pour l'analyser, le critiquer, etc. Donc il y a toujours eu des exceptions aussi. Aujourd'hui, ce qui se passe effectivement, c'est des luttes pour, à partir de ce droit et de ces exceptions, d'un usage loyal, du fair use, etc., ou des licences, des luttes pour aller plutôt vers une ouverture plus grande ou au contraire aller vers une forme de fermeture et d'appropriation.
Quel est votre avis personnel sur les droits d'auteur ? Sont-ils trop rigoureux ? Faut-il faciliter au public l'accès aux biens immatériels, à la littérature, à la musique, aux œuvres d'art ?
Alors le droit d'auteur, il est en fait, pourquoi est-ce qu'il est menacé dans le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement la reproduction n'est plus limitée par le support physique, c'est-à-dire que surtout c'est ce qu'on appelle des biens immatériels. Ça veut dire que le fait que quelqu'un l'achète, ça ne prive pas quelqu'un d'autre de l'achat. C'est pas des biens. Quand vous achetez un livre, il y a un stock de livres. Une fois qu'il n'y a plus de livres, plus personne peut en acheter. Quand vous téléchargez un fichier, vendu ou pas, ça n'empêche pas 10 000, 20 000, 30 000 autres personnes de le télécharger aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement de ce point de vue-là avec la vente des biens immatériels. La vente ou la diffusion, la circulation des biens immatériels. À mon sens, de ce point de vue-là, pour ce qui concerne les publications scientifiques au sens assez large, ça fait partie des domaines, comme d'ailleurs aussi ce qu'on pourrait appeler le domaine public, des biens communs, c'est-à-dire des choses qui sont pour le progrès général de l'humanité, qui sont pour le bien général de l'humanité, et qui ne doivent donc pas être accaparés par des acteurs précis.
Vous êtes spécialiste des humanités numériques, ce qui est un domaine de recherche qui n'est pas facile à définir. En tout cas, j'ai trouvé toute une série de définitions qui sont loin d'être identiques. Quelle est donc votre définition ?
Les humanités numériques, finalement, c'est à la fois la numérisation des humanités, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, finalement, on est dans un monde qui est autant numérique que réel. Enfin, le numérique fait partie du réel, de toute façon. C'est pas un autre monde qui s'ajoute à notre monde. C'est le même monde, mais qui est étendu. Les humanités numériques, c'est à la fois... c'est en fait un ensemble de choses assez compliquées. C'est-à-dire c'est à la fois le numérique dans notre monde, comment l'analyser. C'est aussi le numérique dans le champ scientifique, y compris avec les possibilités qu'il donne, y compris avec, par exemple, le big data, c'est-à-dire l'analyse de données, voilà. Et puis c'est tout ce que ça offre comme possibilités aussi, justement, qui sont quand même inédites de possibilités de diffusion au-delà des frontières, au-delà des barrières, même dans certains cas au-delà des barrières de langue, hein, parce qu'avec des traductions automatiques qui sont de plus en plus efficaces, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une sorte d'humanité, c'est des humanités augmentées.
Quel pourrait être le rôle des humanités numériques dans la diffusion, le partage et la valorisation du savoir ?
Aujourd'hui, elles jouent un rôle important dans le sens où elles sont pionnières, elles sont à l'avant-garde de justement la diffusion du savoir. C'est-à-dire que les publications scientifiques doivent être structurées, doivent être pensées pour être diffusées en ligne. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement des chercheurs qui sont particulièrement attentifs à faire en sorte qu'un livre soit plus juste seulement une série de phrases avec une majuscule au début et un point à la fin, mais soit aussi presque une base de données. C'est-à-dire qu'effectivement, dedans, on puisse circuler autrement, on puisse aller voir des éléments connexes, on puisse passer d'une partie à une autre, aller à une autre partie. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de possibilités ouvertes par le numérique, de façon générale, pour explorer différemment le monde.
Une des définitions des humanités numériques dit que c'est un domaine de recherche au croisement de l'informatique et des arts, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Pouvez-vous donner un exemple de l'application des méthodes utilisées par les humanités numériques dans la littérature ou dans la recherche littéraire, par exemple ? Par exemple, le cas de la présentation simultanée de l'œuvre peinte et de l'œuvre littéraire de William Blake.
Alors, je ne connais pas précisément cette présentation, mais on peut donner d'autres exemples. Il y a des chercheurs qui ont travaillé, par exemple, sur la République des lettres au XVIIIe siècle et qui ont, à partir des lettres échangées par les savants de l'époque ont montré en fait tous les réseaux de diffusion du savoir qui n'auraient pas été, qui auraient été beaucoup plus compliqués de montrer uniquement de façon linéaire en travaillant dessus. Mais là, en mettant en base de données ça, on peut avoir des représentations graphiques, on peut avoir des mises en forme, justement des cartographies qui parviennent à montrer des choses qu'on ne peut pas montrer uniquement avec des schémas ou avec du texte.